D'abord, l'entreprise a une profonde aversion au risque. Le risque est l'ennemi des affaires. Et l'entreprise est très terre à terre. On définit le risque comme la multiplication de la probabilité d'occurrence d'un événement désagréable ou déstabilisant pour l'entreprise par les conséquences de la matérialisation de ce risque. Un exemple, alors ça sera un exemple pris alors que j'exploitais pour l'État une chaufferie nucléaire, en l'occurrence une chaufferie nucléaire embarquée sur sous-marin. Le risque d'accident nucléaire est considéré, il y a des parades pour cela, bien que sa probabilité d'occurrence soit, par les systèmes mis en place, inférieure au millionième, c'est 10-6, mais la conséquence de la matérialisation de ce risque est telle que le risque d'accident nucléaire est pris en compte.
C'est ce qu'on appelle le signe noir. Alors j'ai oublié de préciser que vous aviez une autre vie en tant que commandant d'un sous-marin nucléaire, c'est ça, hein ?
Voilà. C'était,
donc effectivement, c'est aussi une forme d'appréciation du risque.
Parler du risque vu des deux côtés. Voilà.
Voilà.
Et j'y viendrai. Alors depuis l'adoption de la loi de sécurité financière en 2003, les entreprises ont une obligation de renforcement du contrôle interne. C'est un peu le parallèle avec la loi Sarbanes-Oxley aux États-Unis. D'une façon pratique, FICA a créé une direction de l'audit interne, a fait travailler son contrôle interne sur la cartographie des risques, c'était cité. Alors, on commence par une liste à la Prévert. J'étais ce matin dans notre filiale suisse, ils avaient identifié 556 risques. Eh bien, on a regroupé ça en 23 catégories pour ce qui nous concerne, et on en présente dans une matrice de risques 10 conformément aux recommandations de l'autorité des marchés financiers. Et ça, c'est présenté dans nos documents. À l'époque, c'était le document de référence, et puis ça a évolué.
Oui, alors par exemple, dans ces 10 risques, dans ces 10 familles, on va dire.
Typiquement, le risque industriel d'un arrêt de la production d'une usine. Je ne parle pas d'un avion qui tomberait sur une usine. Dans ce cas-là, la parade serait un cierge à Fourvière. Mais un arrêt d'un four de cimenterie entraîne un risque de ne plus pouvoir livrer. Donc
ça, c'est un risque économique, oui.
Un risque économique, un risque industriel. Eh bien, on se prémunit par un réseau de d'autres usines qui peuvent satisfaire le client. Alors, la question, donc pour se protéger de tout cela et analyser ces risques, on a créé une direction de l'audit, avec des risques de corruption, j'ai maintenant une direction de la compliance, j'ai un chief compliance officer.
Voilà, ça c'est un risque juridique, on va dire.
C'est un risque juridique, c'est un risque sur le fonctionnement d'entreprise, c'est un risque éthique, c'est un risque de réputation, c'est un risque financier, c'est très transversal. Très transversal. Alors, la question que vous me posiez était qu'est-ce qui est du ressort de l'État et qu'est-ce qui est du ressort de l'entreprise.
Oui.
Alors, je me garderais bien de dire ce risque-là est à moi et celui-là n'est pas à moi. En revanche, on peut peut-être avoir un éclairage un peu complémentaire de celui qu'Agnès nous a présenté tout à l'heure sur la perception d'un risque, enfin comment l'État, quelle est la typologie des risques pour l'État. Pour l'entreprise, je rattacherai tout ce qui est lié à la liberté d'entreprendre comme étant dans la poche d'entrepreneur. Typiquement, lorsque Elon Musk place sa trésorerie en Bitcoin, on se dit, mon pépère, tu prends des risques, tu les assumes. C'est un peu extrême comme risque. Je pense qu'il y aurait des boucles de régulation dans l'entreprise qui nous interdiraient de le faire, en France du moins. Donc tout ce qui est relatif à la liberté d'entreprendre n'a pas à être assumé par l'État, sauf question systémique. Inversement, ce qui est du ressort du régalien, ayant vécu une expérience militaire, l'armée est une parade à un risque d'agression. Ça permet de protéger les frontières, de se protéger d'un certain nombre de risques évalués. Et pour cela, l'État alloue des moyens. L'État a des corps. Hein, moi, je dis encore des officiers de marine. Hein, il y a des, et ce qui permet de former des fonctionnaires à des spécialités qui permettent d'aider à la lutte contre certains risques. Dans le domaine du risque industriel, l'État forme... il y a le corps des mines, par exemple, qui fournit des bataillons d'ingénieurs extrêmement qualifiés au Tréal, par exemple, qui vont assister les entreprises pour prévenir les risques. Prévenir les risques en fonction de règlements qu'a défini l'État. Donc il y a probablement dans cette catégorie des fonctions régaliennes de l'État, armée, et la conséquence de réglementations qui sont prises par un État et qui peuvent être très différentes d'un État à un autre. La ligne de démarcation entre ce qui est purement du ressort de l'entreprise et ce qui est du ressort de l'État va dépendre finalement du régime politique, va dépendre de phénomènes culturels, et l'épaisseur de cette ligne de démarcation peut être variable en fonction... on comprend facilement qu'un État très interventionniste va par la réglementation, être amené à couvrir lui-même beaucoup plus de risques qu'un État très libéral. Mais la comparaison... peut ne pas être politique. Je vais vous donner un exemple. Pendant la crise sanitaire, nos opérations en Californie ont été considérées comme essentielles. Eh bien, l'État californien n'a pas couvert financièrement les éventuelles pertes de telle ou telle entreprise qui avait des problèmes. En revanche, en France, il y a eu des confinements, on a dit chantier aux sociétés qui faisaient les chantiers de s'arrêter, eh bien l'État a pris ses responsabilités et a couvert ce risque. Donc là, la frontière peut bouger assez fortement en fonction des circonstances et en fonction des régimes politiques ou de...
C'est ça, alors donc évidemment le risque géopolitique par définition il est politique, mais vous me disiez tout à l'heure par exemple qu'il y a certains pays, vous parliez je crois du Maroc, où vous décidez de ne pas intervenir, de ne pas investir, ou parce que vous jugiez vous-même en tant qu'entreprise que le contexte politico, judiciaire et autres n'était pas suffisamment stable pour votre activité, c'est ça?
Oui, alors une société... il y a quand même une histoire assez particulière, parce que nous avons 200 ans d'histoire et que l'entreprise est toujours familiale après 7 générations. Donc on applique des principes très simples, et notamment nous sommes dans 12 pays actuellement, pardon, et nous n'investissons dans un pays que lorsque nous estimons qu'il y a une sécurité économique et une sécurité juridique. Voilà. Ce qui veut dire qu'on exclut naturellement des pays dans lesquels le fait du prince peut être déterminant sur l'avenir d'une entreprise.